Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue dans ce carnet de région, nouvelle édition avec l'actualité de la semaine en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, proposée par vos radios associatives de la région. Et sans plus tarder, entrons dans le sommaire, si vous le voulez bien. Plus d'emballages plastiques dans les cantines des lycées de la région, c'est pour la rentrée, c'est fixé en 2019. Nous entendrons pour cela Aurélie Meillol au micro de 48 FM. Un rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes épingle la gestion et le traitement des déchets ménagers dans la communauté d'agglomération de Béziers. Les précisions de nos confrères de Radio Pays d'Hérault. Nous entendrons aussi David Hidalgo, directeur général de la station Grand Valira, puisque en ce moment se déroule tout proche de la région Occitanie, en Andorre précisément, la Coupe du Monde de ski avec notamment la présence de nombreux Français. Avez-vous participé au grand débat ? La clôture officielle c'est ce vendredi, mais pour les retardataires, vous avez jusqu'à lundi pour vos propositions version numérique. Tous les détails avec Mahamadou Diarra, référent départemental de l'Hérault, au micro d'Oscarine Bengono. Carole Delga était à Montpellier la semaine passée à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes, mais nous l'écouterons sa réaction avec la rencontre qui était proposée sous le thème « Et si les femmes étaient l'avenir de la Méditerranée ?» Propos recueillis par nos confrères de Radio Aviva. Et puis enfin, de l'art pour finir, une exposition du dessinateur Willem, sujet de nos confrères de Radio Grille Ouverte. Bienvenue dans le carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Plus d'emballages plastiques dans les cantines des lycées de la région à la rentrée 2019. La WWF vient de sortir un rapport alarmant sur le plastique, avec notamment 8 millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans nos océans. Et selon les calculs de l'association, d'ici 2030, la production mondiale de déchets plastiques pourrait augmenter de 41% et la quantité accumulée dans l'océan pourrait alors doubler. En cause, notre système de production et d'utilisation et d'élimination du plastique, système défaillant, dans lequel aucun acteur n'est tenu pour responsable. C'est dans ce contexte que le Conseil régional d'Occitanie-Pyrénées-Méditerranée vient d'annoncer l'arrêt des emballages plastiques dans les cantines des lycées de la région. Cette annonce intervient dans le cadre du pacte pour une alimentation durable adopté par la région en fin d'année de l'année dernière, 2018. Aurélie Meillol est la vice-présidente de la région Occitanie, conseillère régionale de la Lozère, au micro de Ludovic Terol de 48 FM.
Le plastique aujourd'hui dans notre société doit être perçu comme un problème global, pas juste comme de la pollution visuelle, mais c'est un problème qui a des conséquences sur l'ensemble de nos ressources et sur plusieurs secteurs de nos activités. Alors sur les ressources naturelles, on entend beaucoup parler en ce moment sur la qualité de l'eau, mais aussi sur la faune sauvage, notamment sur les espèces marines, mais aussi, il faut le savoir, en Lozère, sur les oiseaux. Ça a aussi des conséquences sur notre économie, puisqu'il faut le produire, ce plastique, et donc acheter les matières premières à l'étranger. Et il faut aussi recycler ensuite, après l'utilisation, ces plastiques, donc ça a un coût. C'est un coût supplémentaire, le traitement de ces matières. Et il faut savoir que ce n'est pas toujours possible de recycler le plastique. Il n'y a que certaines catégories de plastique qui se recyclent. Donc on a décidé d'agir, puisque le plastique qui n'est pas recyclé est incinéré. Donc ça a des conséquences sur notre santé, puisque le fait de brûler ces plastiques libère des toxines dans l'environnement et donc a des effets directs sur notre santé. Il faut savoir que 80% des plastiques en France proviennent de l'emballage alimentaire. Donc la région a choisi d'avoir une action assez forte là-dessus et d'accompagner les établissements, notamment les lycées, vers en fait une politique zéro plastique dans les lycées. Et comment on fait ? En fait, j'allais dire, c'est pas facile, mais ça dépend beaucoup de nous et de nos modes de vie, en fait. On a constaté qu'en fait, on pouvait y arriver, ne serait-ce qu'en changeant les contenants des plats et en revenant à des contenants traditionnels, comme l'inox, qui a toujours été utilisé en restauration collective, et aussi en utilisant, quand on fait des parts individuelles, des nouveaux matériaux, on va dire, écologiques, comme par exemple le bambou ou d'autres matières. Donc dans les faits, c'est tout à fait possible et la solution viendra de nous et pas des industriels. Il faut qu'on ait une exigence envers le monde économique pour dire ben voilà, on ne souhaite plus aujourd'hui utiliser de plastique et il est tout à fait possible d'utiliser d'autres matières pour contenir nos aliments.
Et puis ajoutons en parallèle, la région s'est fixée pour objectif de porter à 40% la part des produits locaux dans les cantines à la rentrée 2019. 9 millions de repas sur les 25 millions servis annuellement respecteront ce principe. Un rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes d'Occitanie épingle la gestion des déchets ménagers par la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée de 2011 au 1er janvier 2018. Le rapport de 80 pages que Radio Pays d'Hérault a pu se procurer dénonce les mauvaises performances en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers. Il critique entre autres les choix qui ont été faits par l'agglomération dans l'attribution du marché en 2013, du projet de modernisation du site Valorbi, l'un des trois sites de valorisation des déchets de la communauté de communes de Béziers. Le projet avait été confié à la société Bioreva, basée dans le Vaucluse, sans étude préalable et sans maîtrise d'ouvrage. En 2016, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a passé un nouveau contrat avec la même entreprise pour remplir les mêmes objectifs. Au final, le projet est un échec. Selon le rapport qui a coûté 10 millions d'euros au total, la société Bioreva a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2018. Hélène Motuel-Fabre, elle est présidente de section à la Chambre régionale des comptes d'Occitanie. Nous l'écoutons.
Il n'y a pas eu respect des principes d'égalité de traitement entre les entreprises, tant au travers de l'utilisation des critères de choix que de l'analyse des candidatures.
Écoutons aussi Raymond Coudert, ancien sénateur et maire de Béziers. Il a présidé l'agglomération jusqu'en 2014.
C'est une décision qui a été prise collectivement, collégialement, par la commission d'appel d'offres. Et moi, je n'en faisais pas partie de la commission d'appel d'offres. C'était un vice-président qui l'a présidé. Le seul regret qu'on peut avoir éventuellement, c'est d'avoir fait confiance à des gens qui vous entourent, qui vous apportent leurs conseils. C'est les ingénieurs de la communauté d'agglomération et le directeur général des services de la communauté d'agglomération m'avait indiqué que on pouvait tout à fait traiter cette question en interne sans prendre un assistant à maîtrise d'ouvrage. Bon, a posteriori, on se dit, ben peut-être j'aurais pu prendre un assistant à maîtrise d'ouvrage, peut-être que ça aurait été mieux pour la mise en œuvre, la mise en route. Mais je vous le dis, c'est toujours a posteriori qu'on dit ça.
Frédéric Lacca est actuel président de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée depuis 2014. Il reconnaît là aussi des mauvais choix dans l'attribution du marché.
Les choix n'ont pas été les bons. Quand on reprend un outil, on est obligé de l'assumer. Et je l'assume totalement. Ça va faire des surcoûts pour arriver à ce que l'outil fonctionne pour le mieux. Mais on est sur de la technique et il va falloir que la technique fonctionne et on y mettra les moyens nécessaires. Maintenant, le but c'est l'avenir et c'est surtout de réparer ce qui fonctionne pas. D'après les premières évaluations, puisqu'il faudrait faire des tunnels et améliorer l'outil, ça va tourner autour de entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. Pour l'instant, parce qu'on peut avoir des surprises après.
C'est donc tout proche de la région Occitanie, en Andorre, que se tient depuis mercredi la compétition des finales de la Coupe du Monde de ski alpin qui a tenu depuis ces derniers jours toutes ses promesses. Les descendeurs ont assuré le spectacle, c'est un vrai suspense a eu lieu et le programme va être chargé également ce week-end à un public manifestement au rendez-vous. Nous écoutons David Hidalgo, il est le directeur général de la station du Grand Valira.
Ici, il y a le top 25 du monde dans chaque discipline. Alors, la plus importante qu'on aura sera dans la catégorie de super combi, combiné alpine, qui le vainqueur est Alexis Pinturo. Alors, ça sera un superstar. Et aussi un géant, Tessa Worley. Alors, si on parle de deux superstars, Pinturo et Worley seront ici, oui, oui.
C'est vrai que dans une compétition de ski, il y a des moments spéciaux dans l'arrivée, parce que c'est le moment où on a le chrono et on connaît le classement final. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est que les skieurs peuvent visiter, regarder la compétition depuis toute la piste. Alors, on peut commencer à nos pour la sortie et pour dire oh, on y va. Mais après, il y a la partie intermédiaire de la station, que c'est aussi une partie technique. Et à la fin, le dernier mot qui est vraiment demandant. Alors, il y a trois moments avec beaucoup d'excitation. Chaque pays a son propre style d'animé. Avec le clochette. Alors, il y aura des Suisses, des Français qui vont amener son propre matériel. Alors, on attend une semaine vraiment. Et après, le fan club avec le petit enfant de ski club local et aussi espagnol et français qui nous ont confirmé déjà qu'ils seront ici. Alors, vraiment, va être un moment très émotionnant. On a 9 compétitions différentes. Alors, on va commencer la semaine avec la vitesse, la descente et le super G. Après, le vendredi, on a le team event. Il s'agit d'un parallèle par équipe, par nation. Le week-end, on a les épreuves techniques, slalom et slalom géant. On dit que l'épreuve reine, c'est le géant, mais la descente, attention, hein, parce que 130 à 100 km à l'heure sur les skis, attention.
Avez-vous participé au grand débat 2 mois après la consultation? La clôture officielle, c'est ce vendredi. Les contributions numériques, quant à elles, seront analysées dès lundi. Il est temps de faire le bilan avec le référent départemental dans l'Hérault, Mahamadou Diarra, au micro d'Oscarine Bengono.
Beaucoup de contributions, je vais vous donner quelques chiffres à titre d'exemple. On a eu au total 245 communes qui ont ouvert des cahiers citoyens et qui ont eu beaucoup d'annotations, donc une contribution très forte. Depuis le début du mouvement, 141 réunions d'initiatives locales sont recensées, plus d'une centaine a déjà eu lieu, il reste environ une trentaine qui aura lieu donc dans cette dernière ligne droite du grand débat qui est censé s'achever le 15 mars pour la phase dans laquelle on se trouve actuellement.
Le département de l'Hérault est-il actif par rapport à la moyenne en France?
Oui, il est très actif. Je vous évoquais le chiffre de communes. Cela correspond en fait à plus des 2/3 des communes du département. Le département en compte 342 et voir que 245 ont ouvert des cahiers citoyens, c'est quelque chose d'absolument notable et plus de 200 réunions d'ores et déjà organisées. Cela montre que 1, les citoyens se sont mobilisés et que 2, les maires ont répondu présent à l'appel qui leur a été fait de contribuer à ce grand débat, puisque parfois ils l'ont organisé eux-mêmes, parfois ils ont mis à disposition des salles au bénéfice donc des administrés.
Et quelles idées reviennent le plus?
Ce sera le rôle de la mission du grand débat de le dire, puisqu'elle va analyser les données qu'on leur a d'ores et déjà transmises et qui continuent à monter, puisqu'on est à 1,3 million de contributions en ligne sur le site du grand débat national. Mais très clairement, les 4 thématiques sont bien investiguées hein, par les citoyens, avec, c'est vrai, une part importante, peut-être le tiers hein, des contributions qui concernent notamment la fiscalité et les dépenses publiques.
Le grand débat, positif ou négatif selon le bilan?
On n'est peut-être pas encore à l'heure du bilan, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une dynamique positive avec des citoyens de toute conviction politique qui s'y intéressent, des maires de toute conviction, de toute étiquette qui ouvrent leur mairie. Donc on observe vraiment une forte mobilisation. J'ai moi-même reçu en tant que référent départemental sur le sujet des courriers de personnes qui se réclamaient du mouvement des Gilets jaunes et qui m'ont transmis leurs revendications, leurs attentes. Donc on voit que les citoyens s'y approprient dans toute leur diversité, et c'est ce qui va permettre, je crois, de dire à l'issue que ce grand débat aura été un succès.
Du coup, aujourd'hui, vous organisez des stands de proximité. Quels sont les objectifs?
L'objectif des stands de proximité, c'est d'aller au contact dans des lieux de grand passage, des citoyens qui, pour certains, n'ont pas encore spontanément répondu au grand débat national. Voilà. Les stands de proximité vont de gare SNCF en gare SNCF, parfois dans des locaux de la Poste, selon le territoire. Dans l'Hérault, il a été choisi la gare Montpellier-Saint-Roch, puisque c'est la gare de plus grand passage. Y passent de nombreux TER qui desservent tout le bassin languedocien. Donc la diversité des publics de la gare pourra participer ainsi à travers 2 animateurs, hein, qui sont 2 jeunes étudiants à l'IEP de Toulouse en l'espèce, qui anime les échanges avec les passants pour leur dire voilà, n'hésitez pas à contribuer. On observe qu'ils ont une influence qui est intéressante.
Vous êtes toujours à l'écoute du carnet de région, l'actualité en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Le 8 mars dernier, la semaine passée, la région Occitanie organisait une rencontre autour du thème « Et si les femmes étaient l'avenir de la Méditerranée ?» Quel thème? Le but, aborder la place des femmes dans l'espace méditerranéen à travers plusieurs thématiques centrales telles que la lutte contre les violences faites aux femmes, le respect des droits fondamentaux des femmes ou encore l'égalité femmes-hommes. homme. À cette occasion, Liliane Drey a recueilli les propos de Carole Delga, présidente actuelle de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, qui, au cours de cette rencontre, a annoncé la création d'un partenariat entre la région Occitanie et les fonds pour les femmes en Méditerranée. Nous l'écoutons.
Nous avons souhaité pour cette journée du 8 mars internationale du droit des femmes, eh bien, mettre en avant les femmes de la Méditerranée. Parce que nous voyons dans les pays du pourtour méditerranéen monter les intégrismes, monter également les populismes. Et nous souhaitons envoyer un message à ces femmes pour qu'elles restent maîtres de leur corps, maîtres de leur destin. Et nous voyons en effet des évolutions qui sont intolérables avec des applications numériques qui permettent de suivre les femmes ou les jeunes filles par les hommes de certains pays comme ceux de l'Arabie Saoudite, qu'une femme ne peut pas quitter son pays s'il n'a pas l'autorisation de son mari. Donc tout cela est d'un archaïsme le plus total, et nous pensons que la région Occitanie, en envoyant ce message, en tendant la main à ces femmes de la Méditerranée, elle peut leur donner un espoir de résister, de s'indigner et de gagner dans cette lutte pour l'acquisition des droits. Moi, je suis très attachée à ce que chaque femme puisse être maître de son destin, qu'elle ait confiance en elle et qu'elle ne soit certainement pas dans une question de soumission, ni par rapport à un homme, ni par rapport à une religion. Nous avons tout d'abord un fort partenariat avec l'éducation nationale dans le cadre des lycées, avec Génération Égalité, où nous soutenons des projets de lutte contre les discriminations et pour l'égalité femmes-hommes. C'est également des actions qui sont menées avec des associations, avec les réseaux consulaires pour l'entrepreneuriat féminin, mais c'est aussi de donner les exemples de femmes qui ont réussi, et quand elles ont réussi, je ne parle pas en termes de patrimoine financier, mais ce sont des femmes qui sont heureuses de leur vie, de leur implication professionnelle ou de leur implication citoyenne. Ce sont des femmes qui, par exemple, ont décidé de concilier la viticulture avec l'insertion professionnelle. Ce sont des femmes aussi qui ont souhaité être dans la création numérique ou également dans la création artistique. Donc, nous faisons en sorte que, eh bien, cette égalité femmes-hommes, elle soit bien sûr inculquée dès le plus jeune âge, mais qu'après elle puisse être déclinée, que ce soit aussi bien dans le monde de l'économie que dans le monde de la culture, et avec la SNCF, puisque nous avons la compétence des trains express régionaux, nous avions un partenariat pour la lutte contre les incivilités sexistes dans les trains, et donc il va y avoir la distribution d'un flyer qui va rappeler que les femmes n'ont pas à subir un quelconque geste déplacé de la part de certains messieurs.
Carole Delga, ses propos recueillis par nos confrères de Radio Aviva et Liliane Drey. De la culture et de l'art maintenant pour finir cette édition du Carnet de Région. Avant que s'ouvre le 29 mars prochain, ça approche à grands pas, le 37e festival du cinéma d'Alès Itinérance. Les plus impatients des spectateurs peuvent dès à présent d'ailleurs commencer à s'ouvrir leur passion avec de l'image et l'exposition Un sujet qui fâche, présentée au musée Pierre-André Benoît. Une exposition consacrée au dessinateur de presse Willem, qui résulte en effet d'une collaboration avec le festival Itinérance. Depuis 1968, Willem vit en France et publie des dessins qui parfois fâchent ses cibles, notamment dans Charlie Hebdo, ciné mensuel, et bien sûr dans le quotidien Libération. Ainsi, les cimaises du musée accueillent de nombreux dessins originaux parus entre 2016 et 2018 dans ce journal auquel Willem est fidèle, considérant cette régularité comme une hygiène de vie. Pas moins de 3 commissaires d'exposition ont été nécessaires pour rassembler les dessins de Willem, dont Julie Jordan, l'une des commissaires, nous fait le portrait de l'éternel adolescent Willem.
Alors Willem, c'est plus qu'un dessinateur de presse, effectivement, même si c'est peut-être cet aspect-là du travail qui le fait le mieux connaître du grand public. Mais après, c'est quand même quelqu'un qui a plus de 50 ans de métier maintenant, qui a commencé très tôt par le biais de fanzines, des mouvements anarchistes dans son pays en Hollande, qui est arrivé en France en 68, qui a travaillé tout de suite avec Ciné, la bande d'Arakiri, Topor, Donc c'est aussi un excellent typographe, par exemple. Il a une méthodologie d'écriture des lettres qui est assez incroyable. C'est un homme de presse malgré tout, donc il sait aussi, par exemple, faire ses chroniques. Il écrit très bien, malgré ses fautes de français, qui sont appréciables et rigolotes. Mais après, c'est aussi un grand illustrateur, généralement de sujets. Il s'est beaucoup distingué sur les sujets de la guerre, qui sont bien présentés dans cette exposition-là, par exemple. C'est un homme assez complet, c'est un érudit incroyable, en fait. Il a une culture vraiment monumentale, et ça lui permet aussi de cibler très bien dans ses dessins les sujets qui fâchent, quoi, justement. Il a vraiment un regard très, très, très singulier sur l'actualité, ou sur les choses qu'il dénonce, oui.
S'il fallait résumer Willem, on pourrait dire que la trilogie, c'est le sexe, l'humour noir et l'actualité.
Le sexe, je pense, s'il serait là, il répondrait ça. Oui, c'est se foutre de la gueule du monde en permanence, parce qu'il vaut mieux rire que pleurer, je pense.
L'exposition « Un sujet qui fâche » est visible jusqu'au 26 mai prochain au musée Pierre-André-Benoît d'Alès. C'est pour compléter celle-ci. Deux documentaires consacrés au travail de Willem seront projetés au festival Itinérance, « Colère froide ». Le samedi 30 mars, c'est l'œil de Willem. Ça se passera le samedi 6 avril. Mais tout cela et bien d'autres propositions sont réunies dans le programme du festival. La consulter dès maintenant est disponible sur le site www.itinérance.org. Sujet proposé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte, que nous remercions bien évidemment. Eh bien voilà, c'est avec cette actualité chargée pour cette semaine que se conclut ainsi ce tout nouveau numéro du carnet de région, l'actualité en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, avec toutes les radios associatives qui ont pu participer à ce magazine pour cette semaine. Nous les remercions vivement et que vive cette collaboration pour toutes et tous. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro du carnet de région en Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. C'était le carnet de région.